France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. À quoi pourrait ressembler une machine à remonter le temps? Une vieille DeLorean conduite par un savant à la chevelure hirsute, une navette spatiale, une pendule à la mécanique précise? À quoi surtout pourrait servir une machine à remonter le temps? Car au fond, pourquoi aimons-nous voyager dans le passé? Peut-être pour mieux comprendre le présent, mieux appréhender le monde et les autres, changer notre regard sur une histoire à laquelle nous participons. Certains malheureusement plongent dans ce passé pour tordre le cou à la réalité historique, alors ne perdons pas notre esprit critique et, avec curiosité, partons pour un voyage à travers les siècles. Et vous, vous délectez-vous de livres d'histoire, de romans historiques, de fictions ancrées dans le passé? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France, et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le mardi 15 juillet, vous écoutez France Inter, Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
L'histoire m'attirait peut-être plusieurs raisons. J'avais eu des professeurs de l'Institut catholique, des prêtres, qui nous faisaient des cours sur la Bible. Et il y en avait un qui nous avait parlé des manuscrits de la Mer Morte. Et ça m'avait absolument fasciné, cette histoire des manuscrits de la Mer Morte. Et j'avais trouvé que c'était vraiment passionnant. J'ai découvert un peu l'archéologie, voilà, et puis également les traductions. Il était question d'un texte araméen, grec. Tout d'un coup, la Bible avait pris une espèce de dimension historique que j'avais trouvé très, très intéressante. Ça, c'était une chose. D'autre part, la guerre, tout de même, hein, ces années de guerre très longues, dans une vie de jeune fille, ça avait duré 4 ans tout ça, et j'avais envie de comprendre un petit peu ce qui s'était passé.
Les mots de l'historienne Michel Perrault en 2023 sur France Culture. Pourquoi aimons-nous voyager dans le passé? C'est la question que nous nous posons ce matin avec nos trois invités. Bonjour Katel.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes dessinatrice avec le scénariste José-Louis Boquet, qui est également votre mari. Vous avez créé une collection, Les Clandestines de l'Histoire, des romans graphiques qui font revivre des femmes oubliées de l'histoire. Ce sont des récits édités chez Casterman. La première fut Kiki de Montparnasse. C'est grâce à cet album que j'avais d'ailleurs découvert votre travail, Katel, et cette femme incroyable que fut Kiki. Et votre dernier récit est consacré à Anita Conti. Vous allez nous dire de qui il s'agit. Je précise qu'on peut actuellement découvrir vos planches à la formidable galerie Barbier, c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Bonjour Stéphanie Hocher.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Votre mode narratif n'est pas le dessin, Stéphanie, ce sont des mots. Vous êtes romancière et vous avez entre autres signé deux livres dont nous allons parler ce matin, William et Armure, c'est le dernier en date. Les deux romans sont parus chez Rivage et je le dis très rapidement, pardon, pour le raccourci Armure, on revient notamment sur l'histoire de Jeanne d'Arc et de Gilles de Rais. On est d'accord?
Oui, c'est
voilà.
Absolument.
Et à mes côtés, bonjour Laurent Olivier.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir, de vous rencontrer et de vous recevoir. Archéologue, historien, conservateur général du patrimoine, en charge des collections d'archéologie celtique et gauloise du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et vous avez publié il y a quelques mois Le Monde secret des Gaulois paru chez Flammarion. C'est pas votre seul terrain de recherche. Vous allez nous raconter tout cela. Trois invités, donc trois façons de voyager dans le passé. Et d'ailleurs, ma première question, elle est toute simple. Mais à quoi vous fait penser cette expression de voyager dans le passé, Laurent Olivier?
C'est une chose que j'ai découverte quand j'étais petit, en fait, quand j'avais 10 ans. Je jouais avec des copains dans un bois et en traversant un ruisseau, j'ai vu un fragment de poterie dans l'eau et c'est un fragment de poterie romaine. Et là, j'ai pris conscience que le passé, il est dans le sol, il est sous nos pas, donc il est contenu dans la terre. Donc ça peut être aussi bien un papier de cigarette jeté hier que des ossements de dinosaures, que des ruines romaines et même que les roches les plus anciennes de la terre. Le passé, il est là, il est présent avec nous en fait.
Mais alors vous avez 10 ans et vous avez déjà conscience que ce petit bout de terre, il a un truc particulier?
Je pense que je voulais être archéologue depuis que je suis tout petit. Hein, voilà, les enfants veulent être vétérinaires, ils veulent être pompiers et moi je voulais être archéologue. Et en fait, c'est dans le contact avec le terrain que j'ai découvert la possibilité de faire ça. en fait. Le fait qu'il suffisait de regarder le sol, il suffisait de creuser la terre pour trouver le passé qui est contenu dedans.
On va y revenir, bien évidemment. Stéphanie Hochet, à quoi vous fait penser cette expression de voyager dans le passé ?
Ça me parle totalement. Je me souviens d'une émission à la télévision, quand j'étais toute gosse. C'était justement cette... On avait imaginé une machine qui pouvait remonter à n'importe quelle époque, mais les passagers qui se trouvaient dans cette machine ne savaient pas à quel endroit de l'histoire ils allaient atterrir.
Tout à fait,
ça,
oui.
Ça me faisait tellement peur et en même temps, ça me fascinait totalement. Il y avait ça. Et puis, bon, personnellement, je viens d'une famille très politisée. Donc, l'histoire, en fait, ça explique le présent, ça explique la politique. Donc, forcément, j'entendais des discussions sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. J'étais dans une famille où on se passionnait pour les plusieurs événements du XXe siècle, que ce soit la Révolution russe, la Révolution française, la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, j'ai été baignée là-dedans. Puis rapidement, en fait, au collège, je me suis passionnée pour la discipline.
Oui, vous aviez déjà une passion pour ça, d'accord. Oui.
Ça m'intéressait énormément parce que je me dis, c'est une autre façon d'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des humains à une autre période qui ont vécu et qui étaient comme nous et en même temps qui étaient différents.
Ouais.
Je trouve ça passionnant.
Et vous, Katel, l'expression « voyager dans le passé » ?
Oui, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Le passé ne disparaît jamais vraiment. Hein. Il y a toujours des traces, une mémoire, des systèmes politiques, culturels. Et le présent, évidemment, est construit à partir du passé. Et même le futur découle de ce que nous faisons maintenant.
Bien sûr.
Moi, j'ai vraiment été sensibilisée à tout cela, en fait, à l'histoire, si on peut dire, au passé. Simplement dans mes livres scolaires, dans mes livres d'histoire. Comme je dessinais, j'aimais bien représenter les personnages de mes livres d'histoire. Et curieusement, il y avait pratiquement que des hommes. Et donc, je m'interrogeais déjà assez jeune en me disant mais où sont les femmes, à part Jeanne d'Arc et peut-être Marie-Antoinette, qui ont des destins assez peu enviables, qui étaient nos modèles, en fait, par rapport à tous ces grands héros, Vercingétorix, Napoléon, Général de Gaulle, à qui on pouvait s'identifier, quelles étaient les sources de motivation, voilà. Et ça m'a vraiment interrogée, et certainement inconsciemment, au moment où vraiment le dessin est devenu mon métier, j'ai eu envie de parler de femmes qui ont peut-être été oubliées dans cette grande histoire d'hommes écrite par des hommes.
Oui, que vous n'avez pas vu dans ces livres d'histoire que vous aviez quand vous étiez à l'école. Mais alors, il y a quelque chose qui est très récurrent dans les trois récits que vous venez de faire tous les trois, c'est que ça a rapport aussi à l'enfance, Laurent Olivier, parce que c'est vrai que moi, de mon côté, quand j'entends le mot histoire, ça me ramène aux histoires qu'on me raconte quand je suis petite fille. Vous pensez qu'il y a un lien aussi avec tout cela ?
C'est une question qui nous rassemble tous les trois, c'est la question de la fiction, c'est-à-dire que le passé, on n'y était pas, on l'a pas vu, on ne peut que se l'imaginer en quelque sorte. Et la façon de le rendre sensible, la façon de le rendre présent, c'est effectivement à travers le dessin, à travers le récit, c'est ça qui lui donne vie. Et je pense que c'est là où la fiction devient intéressante, la fiction non pas comme invention, mais la fiction comme, j'irais comme recherche d'un effet de vérité. Et quand vous lisez un bon roman, les personnages existent, ils ont un tempérament, l'histoire vous prend, vous êtes plongé dedans. Et finalement, ce qu'on cherche à faire, nous autres archéologues, c'est restituer des récits qui ont cet effet de vérité. Donc finalement, il y a un continuum entre la recherche, l'histoire et puis la fiction.
Oui, c'est-à-dire que ça ne vous choque absolument pas que des artistes, alors je dis artistes pour avoir un terme générique, s'emparent de l'histoire, s'emparent de votre matière, peut-être même celle que vous avez étudiée et que vous nous donnez grâce à vos livres, pour en faire des œuvres de fiction. Vous n'êtes pas, un scientifique choqué dans votre laboratoire.
Mais non, puisque moi aussi je fais de la fiction. Moi aussi je raconte des histoires sur une réalité que je n'ai pas connue. Et puis, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on pourrait penser que le passé, puisqu'il est passé, il est terminé. Et en fait, on l'aborde au travers des questions qu'on se pose aujourd'hui. Ce qui fait que le passé est finalement une source ininterrompue de signification nouvelle. On se pose des nouvelles questions, et se posant de nouvelles questions, on trouve de nouvelles réponses ou de nouvelles interrogations dans le passé. Donc, c'est une source continue d'inspiration, en réalité.
Oui, de toute façon, vous avez dit deux mots qui sont très importants à travers vos trois récits, là, qui sont la mémoire collective, on va y revenir évidemment, et puis cette notion de vérité qui, évidemment, est sous-jacente à notre conversation. Katel, je voudrais revenir sur votre collection Les clandestines de l'histoire. Est-ce que les recherches que vous effectuez avant chaque album sont extrêmement longues, précises ? Comment vous vous renseignez ?
Oui, alors déjà, on est deux. Il y a donc le scénariste José Luis Bocquet et puis moi-même qui dessine. Lui, il fait des investigations, il lit tout ce qu'il peut trouver sur le sujet, des biographies, des essais, des documents. Moi, c'est plutôt iconographique.
Oui.
Donc, je cherche des images, je m'apprenne de la période, hein, que ce soit pour Kiki, la liberté artistique dans les années 1920, Olympe, le 18e siècle, les gravures, Alice Guy, le cinéma de la Belle Époque. Enfin, je cherche vraiment tout ce que je peux trouver pour rendre ce monde le plus réel possible, le plus juste, parce que la vérité, on n'y est jamais vraiment, mais la justesse, on peut essayer d'y accéder. Et puis, je ferai juste une petite nuance entre les récits que nous faisons, par exemple, entre ce que fait Stéphanie ou moi. Il y a le récit historique, qui est finalement une fiction qui emprunte du contenu dans l'histoire. Et puis, moi, je fais plutôt, avec José Luis, du récit historien, c'est-à-dire une sorte de journalisme d'investigation et avec des traces réelles, et on essaie de reconstituer une histoire du passé.
Oui, vous appelez ça la biographique, c'est ça ? Vous avez presque inventé un mot.
On appelle ça des biographiques, ouais, voilà.
Ouais. Eva Roque. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Un roman gagne en efficacité à hauteur de sa précision, si vous voulez. Donc j'essaie d'être le plus précis possible. J'essaie d'être le plus précis possible et d'éviter, en fait, paradoxalement, d'éviter les fantaisies. En fait, la démarche, évidemment, contrefactuelle, elle est totalement fantaisiste. Mais si je ne connais pas le nom du chien de Charles Quint, je ne vais pas l'inventer. Et alors, il se trouve que je le connaissais. C'était Semper, je crois, ou Sempre, enfin, une déclinaison de Semper. Donc, c'est des petites choses, mais moi, c'est des choses qui me rassurent. Et je trouve que ces petites choses accumulées, c'est des garanties d'avoir un cadre qui soit fiable, malgré tout.
L'auteur, Laurent Binet, qui aime s'appuyer sur la grande histoire pour écrire ses romans, lui, fils de prof d'histoire, d'ailleurs, son papa était professeur d'histoire, entretien accordé dans le cadre de l'émission Au cœur de l'histoire sur France Culture. Pourquoi aimons-nous voyager dans le passé ? C'est notre thème du jour que nous abordons avec la dessinatrice Catel, l'archéologue et historien Laurent Olivier et la romancière Stéphanie Hochet. Stéphanie Hochet, comment vous réagissez quand vous entendez Laurent Binet qui parle d'un cadre, qui parle de rigueur, de précision dans le récit ?
J'approuve complètement. Je fonctionne également avec ce cadre, c'est-à-dire que je ne veux pas raconter n'importe quoi et je veux vraiment respecter les faits historiques. Donc, ce qui fait qu'avant de commencer le roman, je me documente énormément, j'essaie de lire le plus possible et de saisir en fait les événements, les traits de caractère ou même la façon de parler d'un personnage en amont. Et en fait, je tente d'en savoir le plus possible pour me sentir à l'aise dans la période,
ouais.
Pour sentir que en fait cette période m'est familière. Donc évidemment, ça, je me convainc que c'est... Au bout d'un moment, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'entrer. Et j'y vais. Donc, c'est ça qu'on peut construire de la fiction, c'est-à-dire qu'on va faire bouger les personnages, leur donner de la vie, puisque dans un livre d'histoire, bien sûr, on va vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés, mais on ne va pas vous raconter les sensations, les sentiments... les émotions des personnages, mais le romancier peut se permettre un petit peu d'interpréter et d'entrer dans les vies.
Oui, je me suis demandé si vous n'étiez pas finalement une archéologue de l'âme, quelque part. Vous voyez, vous rentrez dans la psychologie des personnages.
Je tente, mais je pense que les romanciers sont des archéologues de l'âme, même quand ils parlent de romans contemporains. Il faut parvenir à entrer dans quelque chose, dans de l'humain. Il faut parvenir à, par empathie, à essayer de les connaître, de les approcher. Et donc c'est un exercice qui mérite quand même un peu de rigueur parce que
oui. Stéphanie, pardon de vous couper, mais dans le cadre de Jeanne d'Arc, donc qui est votre héroïne d'armure, votre dernier roman, quelle est votre principale source ou vos principales sources pour comprendre le personnage ?
Les historiens, les livres d'histoire, les minutes du procès. Je me suis particulièrement intéressée à sa façon de parler. Parce que j'ai découvert, alors que je ne connaissais pas particulièrement Jeanne d'Arc, je ne m'y intéressais pas énormément avant. Ce n'était pas forcément une figure qui me parlait particulièrement, puisque, bon, on pourra déjà vous dire maintenant que la véritable figure qui me hantait, c'était Gilles de Rais, pour des raisons très personnelles.
Oui, oui.
Mais il se trouve qu'elle a été qu'ils étaient compagnons d'armes. En fait, ce que j'ai trouvé de passionnant chez elle, en consultant les ouvrages, c'est son expression, c'est sa façon de rebondir aux questions, de ne jamais se laisser perturber par tous ces hommes d'église, ces théologiens qui avait pour but de prouver que les voix qu'elle entendait étaient les voix du diable. Et elle a des formules extraordinaires. On voit, on peut consulter les minutes du procès. Elle a des réparties absolument hallucinantes, ouais, pour une enfant quand même, une jeune femme qui a entre 17 et 19 ans et qui est parfaitement illettrée. Elle répond de façon assez hallucinante. D'ailleurs, elle va vraiment perturber les théologiens par ses réponses, parfois un petit peu insolentes. Et ça, j'ai aimé énormément. Oui. Et je me suis dit, ça, c'est un personnage intéressant. C'est pour ça que je suis entrée dans le roman en la faisant parler.
Et alors, pardon pour cette question. Hein. Je le dis avec un grand sourire. Mais est-ce que, parce qu'on entend la voix que vous lui donnez à Jeanne d'Arc et aux autres personnages, est-ce que vous les entendez vous parler? Est-ce que, après avoir ingurgité toute cette matière, quelque part, il y a une sorte de maturation et qui fait que de temps en temps, ils viennent vous susurrer à l'oreille leur propre histoire?
Alors, je n'entends pas des voix, mais j'essaie vraiment d'entrer dans son langage. On connaît certaines de ses formules qui sont très fortes, puisque un homme d'église lui avait demandé un jour « Êtes-vous en grâce de Dieu ?» Et elle avait répondu « Si je n'y suis, qu'il m'y mette, si j'y suis, qu'il m'y tienne.
Ouais. »
Ça, je le trouvais absolument extraordinaire, parce que c'était vraiment, elle avait déjoué tous les pièges qu'on lui tendait. Si elle avait répondu oui, c'était de l'orgueil. Si elle avait répondu non, eh bien, vous voyez bien que c'est le diable qui vous susurre à l'oreille, etc. Elle a d'autres formules, comme un théologien qui avait un fort accent du Limousin, apparemment, lui demande « Mais dans quelle langue parlent vos voix ?» Et elle répond « Dans une meilleure langue que vous. »
Ah oui.
Et là, évidemment, le public sourit et se dit « Bon, on n'a pas n'importe qui devant nous. » Et j'ai essayé de reprendre, on va dire, son esprit, sa façon de parler, de me rapprocher d'elle, de me rapprocher aussi de son exaltation, elle est exaltée. J'ai pas voulu non plus l'idéaliser, parce que j'ai repéré chez elle des choses un peu agaçantes, mais ça fait d'elle un être humain. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne supportait pas qu'on jure, alors elle faisait la morale aux soldats, non, c'est très mal de jurer. Et puis il y avait toute cette histoire avec les prostituées qui suivaient les soldats, et puis elle les poursuivait et elle les frappait du plat de son épée.
Ouais.
Donc on voit bien que c'est un caractère un peu spécial, elle n'était pas forcément facile.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on entend, je ne le fais pas exprès, mais on entend bien ce que vous dites, c'est-à-dire que vous accrochez aussi au son. Laurent Olivier, j'ai fait exprès il y a quelques instants d'utiliser l'expression « histoire avec un grand H », parce que souvent on entend cette expression-là. Je déteste particulièrement cette expression parce qu'en fait je ne la comprends pas. Ça laisserait entendre qu'il y aurait une sorte de grande histoire et d'une petite histoire, une sorte de hiérarchie d'importance pour chaque événement. Et je vous pose la question d'autant plus que vous vous êtes intéressé à l'histoire des Gaulois, alors une histoire qu'on a apprise à l'école notamment, et que vous revenez du Dakota aux États-Unis, où vous travaillez, alors je vais vous laisser nous le raconter, mais vous travaillez sur un massacre qui a été commis par des soldats américains à la fin du 19e siècle, sur une communauté Sioux, les Lakota, c'est bien ça. Donc on a d'un côté, dans vos travaux de recherche, j'allais dire la grande histoire, celle qu'on connaît un peu, et là, c'est, on pourrait dire une petite histoire à propos de ce massacre-là.
Et Georges Perec parlait de l'histoire avec sa grande hache.
Oui, c'est ça.
C'est ça, hein, c'est l'histoire qui finalement brise les gens, c'est l'histoire qui enlève à certaines communautés la possibilité de s'exprimer. Et l'archéologie, vous voyez, l'archéologie, justement, sa différence par rapport à l'histoire, c'est que on trouve ce que les gens ont fait et ce qu'on a fait aux gens. On trouve ces restes matériels. Et donc ça a quelque part une forte dimension, une forte relation avec la justice. Il s'agit de rendre justice au passé. Ce qui m'intéressait avec les Sioux, c'est que c'est une histoire qui est assez parallèle à celle des Gaulois, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a toujours en France une vision très positive de la romanisation. Ils nous ont fait des beaux aqueducs, ils nous ont fait de magnifiques temples, ils nous ont fait de très beaux amphithéâtres. Mais on s'intéresse assez peu à ce qu'on a fait aux gens, en fait. Et les gens qui écrivent là-dessus n'ont pas d'expérience réelle. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène colonial? Ça veut dire quoi être conquis? Ça veut dire quoi lorsqu'on vous prend votre terre? Ça veut dire quoi lorsqu'on vous enlève votre langue? Lorsqu'on vous empêche de pratiquer votre spiritualité? Et moi, ça m'intéressait d'aller voir dans une communauté qui a finalement une structure sociale très proche de celle des Gaulois, même si c'est à 2000 ans de distance, chez les Sioux des Grandes Plaines, et voir ce qui restait, comment les guerres indiennes et comment la conquête américaine, finalement, continuait encore à être active aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait, c'est de c'est d'étudier, enfin d'étudier, d'être, de les accompagner dans la mémoire de ce massacre qui continue encore à produire des traumatismes aujourd'hui dans les communautés indigènes.
Vous pouvez nous emmener justement, c'est-à-dire vous pouvez nous emmener sur ce terrain-là, nous le décrire avec vos sens. Quel est ce terrain de recherche pour vous ?
Mais c'est un endroit à la fois très beau, les grandes plaines, il y a des senteurs formidables de ce qu'on appelle sweet grass, là, l'herbe à bison, surtout en ce moment. C'est un paysage de petites collines avec des criques, des petits cours d'eau bordés de peupliers. Et puis, il y a au milieu de nulle part, il y a une colline avec un cimetière dans lequel il y a une grande fosse commune dans laquelle ont été jetés les corps de 146 Indiens gelés après qu'on ait pillé les corps, qu'on leur a enlevé leurs mocassins, leurs leggings et leurs paires de plumes. Et puis, à côté, il y a un ravin, et c'est un ravin dans lequel un carnage horrible a été commis, où on a exterminé plus de 350 personnes, essentiellement des femmes et des enfants sans défense. Et ça a été c'est encore un traumatisme très très actif aujourd'hui, parce que quand on tue des enfants, on s'en prend au futur, on s'en prend à l'espérance dans l'avenir.
Et alors, quand vous êtes sur ce terrain d'enquête, j'utilise à dessein le mot d'enquête parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous faites aussi à partir des objets que vous retrouvez, des traces.
C'est une scène de crime historique, on peut dire.
C'est ça, ouais, une scène de crime historique. Donc, vous retrouvez des objets, j'imagine, des corps. Et là, le premier travail, c'est quoi ? C'est de trouver le temps exact où se sont déroulés ces événements, ou c'est pas du tout la première question ?
Il y a une polémique, en fait, parce qu'il y a évidemment deux versions. Il y a eu 30 morts dans l'armée américaine. Et donc, il a fallu expliquer pourquoi il y avait eu autant de victimes dans l'armée américaine pour une opération de désarmement. Ce qu'on voulait, c'était emmener cette communauté en déportation à près de 800 km de là. Donc, il fallait désarmer les hommes et ensuite emmener tout le monde au train à Rocheville. Et en fait, donc il y a eu une enquête de l'armée, ouais, pour expliquer pourquoi il y avait autant de victimes dans les rangs de l'armée américaine, et on en a conclu que, en fait, les Indiens avaient caché des armes sous leur couverture, parce qu'il faisait très froid, on était en plein hiver, et avaient ouvert le feu sur les soldats, et les soldats avaient été obligés de répliquer, et il y avait eu un peu des dommages collatéraux, comme on dit aujourd'hui. Et puis, il y a une autre version, qui est la version des survivants, qui dit que, quand il y a eu l'opération de désarmement, un coup de feu a été tiré par accident. Les soldats ont répliqué en tirant dans le dos des hommes et en tuant presque tout le monde. Et ensuite, l'artillerie a ouvert le feu sur le campement, ce qui a créé un mouvement de panique. Les gens se sont protégés, réfugiés dans le ravin, et là, l'extermination a eu lieu. Donc, il y a deux versions opposées du même événement. Et donc, il y a d'abord une enquête de terrain, oui, comme on l'a fait sur n'importe quelle scène de crime, c'est-à-dire essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Et puis aussi, il y a ce qu'on peut appeler des indices criminels, c'est-à-dire que quand il y a eu des pièges de corps, hein, j'ai reconstitué l'emploi du temps de l'armée, il y a un trou d'une heure et demie durant lesquels, en fait, on nettoie les traces, et puis on pille les corps pour revendre les objets. Et donc ces objets-là sont aujourd'hui dans des musées ou dans des collections privées, et ce sont des indices criminels. Oui. On voit notamment, par exemple, des éléments de berceau, des éléments de jouets de bébés qui montrent que, effectivement, on a tué des petits-enfants.
On comprend le terme de justice sociale que vous utilisiez, pardon, il y a quelques secondes. Qu'a-t-elle, quand vous redonnez en tout cas une visibilité aux femmes qui n'en ont pas eu, ces femmes de l'histoire, est-ce que vous avez l'impression aussi de faire œuvre de justice sociale ?
Oui, peut-être un petit peu. Tout de même, c'est une façon, en tout cas pour Bocquet et moi-même, de revisiter notre histoire de France. Là, en l'occurrence, on se limite un peu à ça, parce que sinon, il nous faudrait plusieurs vies. Et c'est de les rendre de nouveau évidemment visibles, parce qu'elles ont marqué, chacune d'elles, là pour l'instant on a fait cinq albums ensemble, chacune a marqué à sa manière l'histoire. Elles ont laissé des traces indélébiles. Par exemple, Kiki de Montparnasse, eh bien, c'est la photo de ce dos nu,
oui, par Manet,
de violoncelle,
sûr,
par oui, Manet, oui. Voilà, qui est la carte postale la plus vendue au monde. Ben, Olympe de Gouges, elle a laissé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Joséphine Baker, eh bien, c'est cette image de la femme noire avec une ceinture de banane colonialiste, mais qui est quand même resté dans la mémoire collective. Alice Guy, eh bien, c'est, tout le monde connaît La Gaumont, mais personne ne sait que c'est elle qui a fait les films de La Gaumont. Ouais. Quant à Anita Conti, la dernière que nous avons réalisée, c'est la première femme océogramme, la pionnière de l'écologie. Voilà, on connaît Cousteau, on connaît Greenpeace, on ne connaît pas Anita Conti, qui pourtant avait déjà, dans le passé, il y a presque 100 ans, alerté sur les effets de la surpêche. On en est toujours à peu près au même stade aujourd'hui, en pire, peut-être. Oui. Et donc voilà, c'est important, je pense, de leur redonner une existence, une vie et surtout une visibilité. Ça m'a encore choquée il n'y a pas longtemps, c'était il y a 15 jours, j'ai acheté à la poste un petit guide qu'on trouve sur dans les autoroutes aussi, des petits guides résumés de différentes thématiques, que ce soit les plantes, la santé ou l'histoire de France. Et l'histoire de France, ce petit guide nous montre 25 personnalités de Vercingétorix à la 5e République. Ça se termine donc par M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Et ça commence par Vercingétorix et entre, il n'y a que des hommes, absolument que des hommes. Voilà, que ce soit dans la Gaule romaine, bon, Vercingétorix, puis Clovis, Charlemagne, ensuite on a tous les rois Louis, et il n'y a pas une femme, il n'y a pas une reine, il n'y a même pas Jeanne d'Arc, il n'y a personne. Et donc l'histoire ne serait peuplée que d'hommes. Où est l'autre partie, la deuxième moitié de l'humanité? Elle n'existe pas. Et encore aujourd'hui, donc je pense que le discours et ce qu'on nous montre, et ce qu'on donne à nos enfants aussi à apprendre, à réfléchir, si nous n'avons pas de modèle, comment pouvons-nous nous émanciper? Comment pouvons-nous réfléchir, nous inspirer aussi?
Oui.
Et donc il nous paraît important de donner ces modèles-là à l'histoire.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
À cette époque-là, les fonds d'archives étaient vraiment très mal entretenus, il faut dire. C'était des liasses ficelées, donc on retirait la ficelle et déjà on avait les doigts tout sales, tout plein de poussière. Et puis là, mais c'est une espèce de stupeur, c'est-à-dire je vois des gens qui vivent. Or, bon, j'avais appris que l'histoire, c'était l'histoire de gens qui vivaient, bien sûr, mais là je vois des gens dans leur quotidien le plus absolu, dans leurs doutes, dans leurs hésitations, dans leurs espoirs. Le jour où j'ai retrouvé dans les archives de l'assistance publique les billets qui étaient conservés comme si ça avait été écrit hier dans les langes des enfants nouveau-nés, où les parents avaient mis... en écrivant de façon phonétique qu'ils espéraient retrouver leur enfant et que pour cela ils lui mettaient une petite boucle d'oreille et ils gardaient l'autre pour peut-être le retrouver à l'hôpital des enfants trouvés. Ce jour-là, je me suis dit que toucher ces billets, toucher ces tissus aussi que les parents mettaient en gardant un autre morceau de tissu par-devers eux, je me suis dit que oui, le toucher pouvait être une leçon d'histoire, qu'on pouvait écrire quelque chose sur le toucher.
Les mots d'Arlette Farge, historienne spécialiste du XVIIIe siècle, les mots émouvants. Hein. C'était il y a 5 ans au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Pourquoi aimons-nous voyager dans le passé? C'est la question du jour à laquelle nous tentons de répondre avec la dessinatrice Catel, la romancière Stéphanie Hocher et l'historien et archéologue Laurent Olivier. Stéphanie Hocher, je ne vous ai pas demandé, mais est-ce que vous aimez particulièrement ce travail de préparation d'archives, d'aller chercher les sources
j'aime énormément parce que j'apprends beaucoup de choses.
Oui.
Je ne suis pas historienne en fait. Je cible mes recherches vers ce qui m'intéresse particulièrement. Et donc je vais essayer de savoir le plus possible sur une toute petite partie de l'histoire, alors qui peut être une histoire de l'Angleterre ou une histoire de France. Voilà, par exemple, quand j'ai écrit William, je me suis intéressée à la Renaissance anglaise et comment vivaient les gens à la Renaissance anglaise, pendant la Renaissance anglaise.
Je précise William Shakespeare, hein, en fait. Hein,
voilà,
votre roman s'appelle William, c'est William Shakespeare.
C'est ça, c'est la jeunesse de William Shakespeare. Et puis, il y a 8 années de mystère, puisqu'on ne sait pas ce qu'il est devenu pendant 8 ans, quand il quitte femme et enfant, à l'âge de 21 ans. On le retrouve 8 années plus tard à Londres. Il est devenu comédien, il commence vaguement à écrire. Mais en fait, ça c'est intéressant parce que les historiens ne pourront jamais vous dire ce qui s'est passé pendant cette période. Et c'est là que le romancier. et vous raconte exactement ce qui s'est passé, même si vous voulez le croire ou pas.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que vous n'imaginez pas écrire un roman sans cette matière-là que vous préparez, que vous malaxez un peu avant le travail d'écriture en tant que tel?
Si, j'en suis capable. J'ai déjà écrit.
Ah non, capable, je sais, vous l'avez déjà fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas goûté à une nouvelle forme de récit, en fait? Parce que, en plus, vous avez presque inventé un genre. Je voulais vous en parler dès le début de l'émission, mais c'est vrai que vous avez êtes à la fois dans, j'allais dire roman historique, mais je ne sais pas si c'est le terme exact, mais vous amenez aussi une dimension très personnelle. Il y a toujours quelque chose qui vous raccroche à votre propre histoire. Vous auriez inventé un truc qui a un rapport entre l'autofiction, le roman historique et je ne sais plus quoi.
C'est Pierre Nora qui parlait d'égo-histoire. Je pense que nous ne parlons pas par hasard de tel ou tel personnage.
Oui.
Que ces personnages nous attirent et qu'ils nous parlent particulièrement. Et vous savez, il y avait cette phrase que je trouvais très intéressante de Marguerite Yourcenar, qui s'y connaissait en roman se situant dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle dit « Le problème du roman historique, c'est de se retrouver dans un bal masqué ».
Ah oui.
Donc, en fait, le côté artificiel du roman historique est problématique pour moi maintenant, alors que j'ai écrit beaucoup de romans qui se situaient dans des périodes que je n'ai jamais connues. Mais aujourd'hui, je me dis, voilà, je vais expliquer au lecteur pourquoi je parle de tel ou tel personnage, et je vais lui dire quand on ne sait pas ce qui s'est passé, et je vais lui indiquer à quel moment j'imagine.
Oui.
Et je vais lui dire, voilà.
Ah ben oui, c'est hyper drôle. Ah oui, pardon, je peux vous citer parce que les notes de bas de page sont quand même assez hilarantes. Au bout d'un moment, vous parlez de la mère de Jeanne d'Arc. Oui. Et donc, dans la note de bas de page, je lis que les quatre premières pages, les quatre premières lignes, hein, pardon. L'autrice se permet de prêter des caractéristiques de sa propre mère à Isabeau d'Arc. Connaissant peu de choses de la génitrice de Jeanne, se retrouvant face à un vide, l'autrice s'est permis de répondre un peu de la sainteté de son ascendante sur le profil de cette femme du 15e siècle. C'est ça qui vous amuse aussi,
oui,
dans cette narration-là.
Sûr.
Oui.
Bien sûr, puisque le romancier, la romancière ose beaucoup de choses, et j'ai un tel respect pour la vérité historique. Je ne veux pas que le lecteur se dise Jeanne d'Arc, la mère de Jeanne d'Arc était ainsi, sans savoir que je l'ai imaginée. Et donc, je lui indique à quel moment j'imagine, ou parfois je me permets d'avoir quelques commentaires sur mon personnage que je trouve plus ou moins agaçant, oui, oui, plus ou moins, etc. Donc, on va dire
ce que l'historien peut pas faire, Laurent Olivier.
Non, non, mais je me permets d'entrer dans le roman maintenant, et puis de parler aussi d'événements de ma vie,
oui,
qui peuvent éventuellement me faire penser aux événements qui se sont situés il y a des décennies, il y a des siècles. Ce qui m'avait touché dans l'histoire de William Shakespeare, c'était la fugue.
Oui.
C'était un fugueur, en fait. Il commence sa vie par fuguer. Donc, et moi, ça m'a parlé, parce que j'ai été un peu une spécialiste des fugues quand j'étais adolescente.
Et Laurent Olivier, on ne peut pas donner son avis quand on est historien sur ces personnages qu'on croise.
C'est-à-dire que quand on fouille dans une matière qui est extrêmement émouvante, parce que c'est de l'intimité.
Ouais.
Quand vous fouillez des tombes, les gens sont enterrés avec les objets qu'ils portaient, on leur met à manger dans le pot de la maison, dans la cruche du placard. Quand vous fouillez des habitats, vous fouillez chez les gens. Et il y a cette question-là, il y a cette question de l'intimité qui a perdu du sens pour nous, en fait. Hein, mais qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, sinon vous êtes un boucher, en fait. Vous massacrez le passé. Donc il y a cette dimension-là qui est très importante, la dimension humaine de ce qu'on explore.
Et donc le devoir de mémoire aussi, vis-à-vis de ces gens dont vous retracez en fait le passé aussi.
Oui, et puis essayez aussi, ça c'est quelque chose qui est peut-être qui nous est particulier, c'est que quand vous regardez l'histoire de l'humanité, Homo sapiens, d'après les derniers résultats des études d'ADN, on serait apparu il y a 200 000 ans. Les témoignages historiques, en gros, c'est les derniers 2500 ans au maximum. Donc vous avez toute une période pendant laquelle on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc l'anthropologie nous aide à essayer de comprendre les logiques, en fait. Des logiques qui peuvent être très différentes des nôtres. Donc c'est dans cette mesure-là que, encore une fois, je vais utiliser encore le mot qui revient, c'est de rendre justice au passé. C'est d'essayer autant que faire se peut de ne pas projeter nos propres a priori, nos propres clichés sur un passé qui, de toute manière, est destiné à nous échapper.
Ouais, donc se débarrasser de ses préjugés aussi avant d'arriver sur notre terrain d'enquête, j'imagine. Katel, je vais dévoiler un peu ce qui s'est passé hors micro, mais vous étiez très contente que Laurent Olivier soit avec nous ce matin, parce qu'il me semble que votre prochaine héroïne, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme d'héroïne, en tout cas votre principal personnage du prochain album est une Gauloise, c'est ça ?
Oui, oui, on va le dévoiler. Mais juste auparavant, je voulais ajouter une petite chose à ce qui a été dit, c'est que de mon point de vue aussi, je vais tout à fait dans le sens de Laurent Olivier, cette recherche archéologique, ben moi je la fais par le dessin et souvent je me déplace, je fais beaucoup de repérages et en allant à droite et à gauche, eh bien je découvre des choses à la fois physiques mais aussi psychologiques sur le personnage. Quand je suis allée à Saint-Louis sur les traces de Joséphine Becker, j'ai vu où elle a vécu, j'ai vu comment elle a été petite, vraiment rabrouée, ça a été très compliqué pour elle de s'émanciper. Elle travaillait chez des personnes riches à côté, qui avaient des grosses maisons, c'était une colonie allemande qui s'était installée au 19e siècle avec des grosses maisons de pierre qui ressemblaient à des châteaux. Ce qui a expliqué, on n'avait jamais fait le rapport, que Joséphine Becker, par la suite en arrivant en France, a acheté des châteaux médiévaux. Parce qu'en effet, à Saint-Louis, il y a ce type de château et elle rêvait en fait d'elle-même devenir un jour propriétaire, riche et de pouvoir elle-même choisir sa vie et pas la subir.
Ouais.
Et pour en revenir au prochain personnage... Effectivement, alors on part avec Bocquet dans le passé, encore plus passé, et nous nous sommes intéressés à la chef de communauté celte de Vix pendant la période de l'âge de fer des principautés celtiques, et nous aimerions arriver à reconstituer la vie de la dame de Vix avec évidemment ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme objet, comme élément nous permettant de reconstituer et de dessiner, de raconter cette histoire.
Laurent Olivier, il y a beaucoup de ressources sur ce personnage.
C'est un sujet vraiment très intéressant parce qu'en fait, c'est une reine celtique de la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ qui est enterrée avec des instruments de pouvoir des hommes. C'est-à-dire un énorme cratère qui contient plus de 1100 litres de vin de la Méditerranée, une fiale qui sert au sacrifice. Et en fait, ça a beaucoup perturbé les archéologues parce qu'ils se sont dit c'est pas possible que ça soit la tombe d'une femme. Donc on a imaginé les choses les plus compliquées, certains ont même imaginé que c'était un prêtre travesti en femme, d'autres ont imaginé que c'était une sorcière, tout le monde a fantasmé en se disant si c'est la tombe de cette fille, qu'est-ce que ça va être la tombe de son mari ou de son père, ça va être d'une richesse incroyable, et en fait il n'y a pas d'autre tombe que la sienne. Donc c'est intéressant parce que ça ouvre une fenêtre sur la condition des femmes dans le monde celtique qui est complètement différente de celle qu'on imagine, elles peuvent exercer des pouvoirs politiques, elles peuvent exercer des fonctions dans la diplomatie, elles peuvent commander des armées, elles ont une place beaucoup plus importante que celle qu'on imagine dans nos propres sociétés.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Australie, 1895. La petite Annette Kellerman souffre de la polio. Personne ne sait comment la soigner.
On va essayer quelque chose. Nage, Annette, nage!
Et ça marche! À 15 ans, Annette est guérie et a trois passions dans la vie. Nager, nager, nager. Et sinon, j'aime la natation. Ça tombe bien, c'est une très bonne nageuse. Du coup, elle se lance des défis. Comme d'autres traversent la rue, Annette traverse la Manche.
Enfin,
elle essaye. J'ai pas réussi, mais j'ai dépassé tous ces hommes. Même avec ça, je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme. J'adore mettre en scène mes performances.
Extrait d'une série d'animation que j'aime beaucoup diffuser sur France 5 qui s'appelle Culotté, qui est adaptée de l'œuvre de Pénélope Bagieu. Il s'agissait d'un épisode consacré à Annette Kellerman, pionnière de la natation chez les femmes et qui a réussi à imposer les maillots de bain. Stéphanie Hochet, on parlait de cette notion de vérité, de recherche de vérité. Quand on s'attaque au personnage de Jeanne d'Arc, qui a été utilisé par nombre de partis politiques, j'imagine que ça avait aussi une importance pour vous.
Oui, ça évidemment qu'on le sait. Enfin, j'étais consciente du problème,
oui.
De la récupération, hein, puisque c'est une espèce de récupération complètement ridicule. Je veux dire, on peut pas associer Jeanne d'Arc à un mouvement d'extrême droite. Ça a absolument aucun rapport. Enfin, à l'époque de Jeanne d'Arc, on a une armée d'occupation qui est l'Angleterre. Donc, pourquoi identifier Jeanne d'Arc au parti d'extrême droite? Ça n'a aucun lien. Et puis, bah, d'une certaine façon, on parlait de justice, c'est aussi lui rendre justice que de la montrer,
oui,
on va
c'est
dire,
ça, oui.
Forte, rebelle, face à une armée d'occupation, tout simplement. Je veux dire, On a Jean Moulin comme héros de la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait très bien avoir Jeanne d'Arc comme figure féministe. Il ne faut pas oublier qu'elle se tient toujours devant en fait, une assemblée d'hommes et qu'elle tient bon et qu'elle va parvenir à les convaincre. Et surtout, elle leur dit, vous allez m'écouter, vous allez me suivre. Et c'est la seule dans l'histoire de France qui parvient à faire ça.
Et est-ce que l'avis des historiens sur vos récits vous importe ou au fond, vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre travail et à chacun son job?
Bon, je suis toujours intéressée. Je suis toujours intéressée. Après, si on va aller chercher très loin, si on me dit ah, il s'est pas passé exactement ça.
Oui.
J'ai envie de dire, de toute façon, on a évidemment ce mystère qui est le mystère qui m'a attirée aussi dans ce récit, même principalement, c'est le lien entre Gilles de Rais et Jeanne d'Arc. Et ça, aucun historien ne pourra vous dire ce qui s'est passé entre eux.
Oui.
Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de source.
Et est-ce qu'en une minute, vous arrivez à nous dire qui était Gilles de Rais et pourquoi vous vous êtes intéressé à lui?
Alors, Gilles de Rais, c'est un noble qui est un grand combattant. Il combat du côté du dauphin. Il va combattre. Il va être compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Il est. On imagine bien qu'il a été assez courageux et assez bon combattant pour devenir maréchal à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire le plus jeune maréchal de France.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc en fait, il a un destin, dans une première partie de sa vie, qui est un destin admirable. Il est ce grand combattant qui a donné des armées, de l'argent aux dauphins pour qu'ils puissent remporter cette guerre contre l'Angleterre. Et puis, quand Jeanne est tué par les Anglais, la guerre est finie, il retourne dans ses terres, qui sont ses terres de Vendée, et là, on va découvrir bien plus tard qu'il devient un personnage absolument terrible, horrible, puisqu'il devient le premier tueur en série de l'histoire. Il va s'attaquer à des jeunes garçons qu'il va tuer, qu'il va torturer avant, etc. On parle de 140 victimes environ.
Ouais.
Donc on est sur un personnage absolument épouvantable, mais qui a eu un parcours assez admirable au début de sa vie. C'est ça qui est étonnant.
Ouais, c'est ça qui vous intéressait aussi, j'imagine.
Ça m'intéressait beaucoup. Ouais. Alors après, les gens qui liront mon livre verront que c'est aussi, il y a des histoires familiales qui me relient à lui. J'avais entendu parler de lui depuis très très longtemps, même sans en prendre vraiment conscience. Et quand j'ai décidé d'écrire sur lui. J'avais déjà l'idée d'écrire sur lui il y a très longtemps, mais je ne parvenais pas à savoir comment le faire, parce que si vous vous attaquez dans un roman à l'histoire de Gilles de Rais, vous allez plomber les lecteurs tout de suite, parce que c'est épouvantable, quoi. Et je me suis dit que la figure de Jeanne, justement, nous amène un petit peu de lumière, et ce qui fait que cette ombre apparaît encore mieux avec cette lumière qui est Jeanne, qui est ce personnage absolument, on va dire, adorable, d'une certaine façon. Et qu'on a tendance quand même à caricaturer, parce que je me rendais bien compte qu'en France, on voyait Jeanne d'Arc comme voilà, l'hystérique qui aurait eu des visions et qu'on aurait brûlé, etc. Mais non, Jeanne d'Arc est un personnage intelligent. Elle est courageuse, elle est surdouée, elle est d'une éloquence incroyable. Et ça, c'est ce que j'ai découvert moi aussi, en travaillant sur cette période et sur elle en particulier.
Mais c'est ce qu'on découvre aussi en tant que lectrice, je peux vous le dire, parce que c'était une période de l'histoire qui ne m'intéressait pas. Je ne sais pas très bien de dire un truc pareil, mais parce qu'en général, tout m'intéresse, mais voilà, je n'avais pas une prédilection à aller lire une histoire sur Jeanne d'Arc, et c'est absolument fascinant, votre récit, et on entend sa voix. Vraiment, encore une fois, c'est la façon dont vous retracez ces dialogues sont assez, assez incroyables. Et y a,
vraiment,
c'est vrai qu'il y a une lumière, il y a vraiment une lumière dans tout ça.
Une surdouée, il faut vraiment l'imaginer comme une surdouée. Elle est très très jeune, elle parvient à tenir tête et ses réponses sont juste incroyables. Donc si les Français parviennent à saisir Jeanne d'Arc comme ce personnage complètement surdoué, fier, qui convainc des hommes, je me dis que voilà, les féministes devraient s'en emparer. Elles s'en sont déjà emparées.
Oui, bien sûr.
Mais là, le problème, c'est avec cette récupération d'extrême droite qui est complètement ridicule. Jeanne d'Arc n'a pas mérité ça, bien sûr.
Oui. Qu'a-t-elle ? Elle est lumineuse aussi, Anita Conti, à qui vous rendez hommage dans ce dernier album.
Ah oui, Anita Conti, ben, c'est aussi un personnage extraordinaire, avec ses aspérités, mais un peu comme Jeanne d'Arc illuminée aussi, hein, oui. Qui part seule sur des bateaux de pêche en Terre-Neuve, avec 60 marins à bord, elle est la seule femme, et elle travaille sur les océans, elle essaye de comprendre ce qui se passe au-dessus de la mer, mais aussi en dessous. Elle découvre en fait avec horreur qu'on est en train de racler les océans, qu'on pêche de façon aveugle et qu'on détruit tout. Elle dit bien que sur le sol terrestre, aujourd'hui, on produit méthodiquement. Dans le milieu océanique, on exploite aveuglément. Et ça, c'est en 1953, c'est-à-dire il y a 70 ans. Ouais. Donc voilà, très visionnaire. Et c'est exactement ce que disait Stéphanie sur Jeanne d'Arc. Ce sont des femmes, là, toutes celles aussi sur lesquelles on travaille, qui sont des femmes engagées, qui sont des femmes émancipées, qui ont des caractères extrêmement trempés, avec leur langue propre, mais qui arrivent à marquer finalement par leur opiniâtreté, leur volonté, leur puissance, elles arrivent à marquer l'histoire. Oui. Alors Jeanne d'Arc, c'est finalement la seule qui était gardée, mais pas forcément pour les bonnes raisons aussi. On se souvient de la pucelle d'Orléans qui a été brûlée, voilà, on connaît pas voilà, tout ce côté vraiment personnel et intéressant, passionné du personnage, donc on aime beaucoup moins en tout cas. Et c'est pareil pour nos héroïnes, on essaye de les faire rentrer voilà, dans cette grande histoire avec sa hache là qui casse. Et pour qu'elles prennent une place et qu'elles soient des sources d'inspiration pour les jeunes, les jeunes filles en l'occurrence, qui puissent s'identifier à des modèles intéressants, pas forcément des modèles guerriers aussi, des femmes qui font avancer l'humanité, chacune à sa façon, en essayant de réfléchir sur un sujet, en essayant de s'engager et de faire avancer leur destin et le destin par là de l'humanité.
Si vous me le permettez, on va donner les derniers mots à un homme qui était notre seul homme de la matinée, Laurent Olivier. Qu'est-ce que vous a inspiré cette conversation que nous avons eue depuis 10 heures ?
Ben, c'est un sujet sur lequel je travaille, les femmes gauloises, oui. Précisément. Et qu'est-ce qui se passe avec la confrontation avec la colonisation romaine, qui est une société qui, aujourd'hui, serait entre l'Iran et l'Afghanistan par rapport à la condition oui. féminine. Qu'est-ce que produit ce télescopage ? Donc, c'est intéressant parce que on n'a pas cette image de la liberté des femmes dans les sociétés gauloises, qu'on voit toujours comme quelque chose d'un petit peu arriéré. Voilà, on vit au fond de nos forêts, mais heureusement qu'on a été civilisés. Donc, c'est aussi un regard sur le colonialisme, ouais. Ce que le colonialisme fait à la condition des femmes.
Il faut le lire, Le Monde secret des Gaulois, c'est édité chez Flammarion. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Laurent Olivier. Merci, Catel, et merci, Stéphanie Audet. Toutes les références de toutes vos œuvres, elles sont à retrouver sur la page de l'émission, là l'application Radio France. Et dans ma machine à fabriquer l'émission, il y a Claire Destacan à la réalisation, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filliol et Elina Garcia à la préparation et ce matin la technique, Pauline Laverdure et Guillaume Ficheux.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.